bulletin d'information. Au revoir.
Bonsoir à tous. Élisée Moukati en face de ce micro. Et comme tous les lundis, votre émission Sporama suit la voix de l'Amérique de 19h à 19h30 temps universel. 30 minutes pour passer au peigne fin l'actualité sportive du week-end. Et comme d'habitude, nos consultants sont là pour vous éclairer. Amédine Sy, en direct de Dakar au Sénégal. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la Véafrique.
Depuis Kinshasa en RDC, Valdo Simbo Yamayama. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique. Heureux de vous retrouver une fois de plus.
Amine Birouk à Casablanca au Maroc est aussi avec nous. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis, dans ce studio avec moi, comme d'habitude, Lawal Tin, Kosuro, fidèle au pouce. Bonsoir Lawal.
Élisée, bonsoir.
Dans la charpente de l'émission ce soir, la CAF a tranché. Le match Sierra Leone-Bénin sera rejoué, même si la Fédération béninoise de football annonce qu'elle va faire appel devant le tribunal arbitral du sport. Et puis, les duels des quarts de finale des interclubs de la CAF sont connus, tout comme la composition des deux groupes de la CAN de Beach Soccer qui aura lieu ce mois au Sénégal. Bienvenue à tous. On se dirige vers une finale 100% anglaise cette année en Ligue des Champions d'Europe. Après le nul 1-1 obtenu par Chelsea en Espagne devant le Real Madrid, c'est Manchester City qui est allé renverser le Paris Saint-Germain au Parc des Princes le lendemain, score 2 buts à 1. Amine Birouk, un très beau coup réalisé par l'équipe de Pep Guardiola.
On se dirige peut-être comme en 2019 vers une finale de 100% anglaise puisque l'équipe de Chelsea et surtout Manchester City ont pris l'ascendant sur le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. L'équipe entraînée par Pep Guardiola a réussi à retourner une situation incroyable. Ils étaient menés 1-0 au Parc des Princes, quasiment surclassés dans le jeu par des Parisiens très en jambes. Et puis, au fur et à mesure de la rencontre, l'équipe de Manchester City a réussi à mettre en place son jeu, à se remettre dans une situation plus favorable et puis à retourner la situation. Alors que dans le match de Chelsea face au Real Madrid à Madrid, à Valdebebas plus exactement, l'équipe des Blues a peut-être laissé passer une occasion de surclasser les Merengues qui n'étaient pas véritablement entrés de plein pied dans la partie. L'égalisation de Karim Benzema remet les Madrilènes en selle et on verra si Chelsea n'a pas laissé filer une occasion de se rassurer et de s'assurer une place en finale. Verdict mardi et mercredi prochain.
Amédine Sy, comme City, Chelsea garde aussi toutes ses chances de qualification après son nul face au Real.
Tout à fait, Élisée. Il faut dire que les hommes de Thomas Tuchel sont en ballotage favorable car ils ont rendu une copie propre lors de la première manche en dominant cette rencontre de la tête et les épaules. Les partenaires d'Edouard Mendy ont malmené même par moments l'équipe madrilène, mais à l'arrivée, ils n'ont pas su profiter de cette domination pour battre leurs adversaires. Donc, je peux dire que rien n'est encore joué dans cette double confrontation, mais Chelsea, grâce au but marqué à l'extérieur, part un peu avec la faveur des pronostics Élysée.
Valdo, après avoir éliminé le FC Barcelone en huitième de finale et le Bayern de Munich en quart, Paris se retrouve dans une position très inconfortable dans l'optique d'une nouvelle présence sur la dernière marche.
Élisée, comme vous l'avez dit, le club français est dans une position inconfortable face à un City qui a focus sur la Ligue des Champions et eh bien, on passe de jouer la finale et oublier l'élimination en demi face à Tottenham l'année d'avant. Et là, avec cette belle option prise en déplacement par les hommes de Pep, Paris doit batailler dur afin de créer la sensation. Pochettino a les hommes pour, mais le problème c'est qu'en face, il y a un technicien qui sait déjouer avec son effectif. Ces duels s'annoncent très techniques. Avant qu'il ne soit pris en charge par les talents individuels que disposent les deux clubs, Paris a déjà réussi à éliminer un club anglais en 2015 avec un 2-2 face à Chelsea en 16e, comme pour dire que c'est encore possible pour Neymar, Mbappé et les autres, car ils savent qu'en cas d'un échec, Paris risque de payer gros cette élimination avec le départ de certains joueurs qui dépendent essentiellement de l'issue de cette Ligue des Champions.
Lawal, pendant ce temps en Afrique, on est à l'étape des quarts de finale en Ligue des Champions et en Coupe CAF. De belles affiches au programme. Le tenant du titre, Al Ahly, va se frotter pour la troisième année de rang au Sud-Africain de Mamelodi Sundowns, club du nouveau président de la CAF.
Oui, Mamelodi Sundowns, c'est une équipe qui se porte assez bien et qui fait la pluie le beau temps en Afrique du Sud.
Et son entraîneur entraîne désormais le national du Caire.
Oui, Bon, il faut s'attendre à tout, mais Al Ahly, c'est pas une petite équipe non plus.
Le club est titré.
Et donc, ça va être assez chaud à ce niveau-là. On attend de voir, et tout ce que ça apprend au football africain, c'est qu'il y a comme un relèvement du niveau du foot, et ça, c'est pour le plaisir de ceux qui suivent toutes ces équipes-là.
Alors, Valdo, le second représentant sud-africain, Kaizer Chiefs, fera face au Tanzanien de Simba, tombeur des Congolais de l'ASV Club. Un match équilibré.
Équilibré, vous dites, Élisée, je ne pense pas. J'accorderais plutôt un léger avantage aux Tanzaniens des Simba qui ont fini en tête d'un groupe que l'on ne pouvait pas du tout s'attendre à ces niveaux-là, avec notamment le champion en titre qui s'est contenté de la deuxième place dans sa peau de leader face à Kaizer Chiefs, qui a fini deuxième d'un groupe pas assez relevé. Si les clubs tanzaniens restent sur sa dynamique de la phase des groupes, ça sera une très très bonne chose. Il peut bien passer ses caps sans trop de difficultés. Mais attention, en football, rien n'est acquis d'avance. Il faut assurer sur terrain. Les Chiefs peuvent également jouer leur carte face à un adversaire qui, à peine, s'est fait un nom sur le continent pendant la phase des groupes. Étant donné que la phase à élimination directe annonce toujours les débuts d'une autre compétition, la gestion de deux matchs reste un élément capital.
Amine, le Wydad défiera le Mouloudia d'Alger en Ligue des Champions, pendant qu'en Coupe CAF, le Raja, désormais favori, doit pourtant se méfier d'Orlando Pirates.
C'est un derby maghrébin qui attend le seul représentant du Maroc en Champions League africaine, le Wydad de Casablanca, qui aura l'avantage de jouer le match retour à Casablanca face au Mouloudia Club d'Alger. L'adversaire qui avait affronté le Wydad il y a une dizaine d'années, c'était lors de l'édition 2010-2011, avec une victoire des Marocains sur le score de 4-0. En phase de groupe, ce qui avait coûté à l'époque la place à Harb El Sheikha, qui était à l'époque l'entraîneur de l'équipe algéroise. Du côté de la Coupe de la CAF, le Raja n'a pas été gâté par le tirage, puisqu'il aura effectué un long déplacement en Afrique du Sud pour affronter Orlando Pirates. Et pour l'instant, on ne sait toujours pas où le club marocain affrontera à domicile l'équipe sud-africaine, car pour l'instant, il y a restriction de déplacement ou d'arrivée des Sud-Africains au Maroc. C'était le cas déjà pour le Wydad de Casablanca face à Kaizer Chiefs. Et on verra dans quelle mesure et où surtout l'équipe marocaine pourra jouer son match à domicile. On se dirige à nouveau certainement vers une solution de délocalisation de la rencontre, peut-être encore une fois au Burkina Faso.
Amédine, une première pour le Djaraf de Dakar, qui aura un adversaire à sa portée, les Camerounais de Coton Sport du Garoua.
C'est vrai, Élisée, le Coton Sport de Garoua est à la portée du Djaraf, mais ce quart de finale de la Coupe de la CAF ne sera pas facile pour les Sénégalais, car ils auront en face d'eux non seulement une bonne équipe du Coton Sport de Garoua, mais aussi une formation très expérimentée, car le Coton Sport de Garoua, c'est 15 titres de champion. Il faut dire que c'est une équipe que les Sénégalais connaissent très bien, car le technicien sénégalais Lamine Ndiaye a eu à coacher cette équipe et il a réalisé de très bons résultats là-bas, car avec lui, Coton Sport de Garoua a remporté 5 titres, dont 4 consécutifs en 6 saisons. Donc c'est une formation que les Sénégalais respectent très bien. Le Coton Sport de Garoua a d'ailleurs joué une finale de la Coupe de la Confédération. C'était la Coupe des vainqueurs de Coupe autant qui est devenue la Coupe de la CAF. Donc cela prouve que le Djaraf aura en face une redoutable formation du Coton Sport de Garoua. Donc ce sera un match équilibré. Je dirais que c'est 50-50 entre ces deux équipes élisées.
Les matchs allés auront lieu le 16 mai et le retour le 23 mai. La CAF a procédé également au tirage au sort de la CAN de Beach Soccer qui se déroulera du 23 au 30 mai prochain à Sali au Sénégal. Le pays hôte et double tenant du titre hérite d'un groupe A largement à sa portée avec la RD Congo, l'Ouganda et la Tanzanie. Amédine, deux grands défis pour le Sénégal, l'organisation et la consécration.
Tout à fait, Élisée, le Sénégal qui accueille la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer tentera de relever le défi de l'organisation, mais aussi celui de la participation. Une mission possible pour les Lions
de la plage qui ont déjà remporté cette compétition à 4 reprises en 2008, 2011, 2013 et 2016. D'ailleurs, le Sénégal qui est logé dans le groupe A en compagnie de la RDC, de l'Ouganda et de la Tanzanie partira largement avec la faveur des pronostics. Les poulains de Ngala Sila vont bénéficier de l'appui du public et ils feront tout pour conserver leur titre à domicile. Élysée.
Valdo, la RDC qui va découvrir le tournoi pour la première fois partira de plus loin.
Élysée, une première participation qui va sans nul doute permettre aux nombreux Congolais d'apprendre sur l'existence de la pratique de cette discipline, étant donné qu'il n'y a pas de championnat en RDC et qu'une équipe a été mise en place. Et celle-ci va représenter la RDC à une phase finale des Coupes d'Afrique des Nations de Beach Soccer. La Fédération Congolaise de Football Association, de son côté, rassure avoir réuni les nécessaires pour assurer cette participation de la RDC à ces rendez-vous continentaux. Elle dit s'appuyer notamment sur l'expertise des joueurs évoluant à l'étranger, comme d'ailleurs elle en a l'habitude avec le football. Il est donc à noter que la participation à cette phase finale servira de détonation pour l'implantation et l'organisation du beach soccer sur le sol de la RDC.
Dans le groupe B, le Maroc et l'Égypte feront clairement figure de favoris devant les Seychelles et le Mozambique. Amine, le Maroc ambitieux prépare déjà cette CAN avec justement un stage au Sénégal.
Tout à fait, Élysée. Les Marocains ont mis les bouchées doubles avec un stage de préparation ponctué de rencontres amicales face au Sénégal. Il est vrai que cette fois-ci, l'objectif est d'aller en phase finale de Coupe du Monde et pour cela, il faudra arriver en finale. L'équipe s'est donné les moyens. Elle a les moyens aussi à domicile avec un terrain aménagé au complexe Mohamed VI. Mais il faudra rappeler qu'il faut arriver en finale et ce n'est pas une tâche qui sera facile. Ce sera même un palier difficile à franchir, d'autant plus que il faudra finir premier de son groupe devant l'Égypte pour avoir la demi-finale la plus abordable et surtout éviter le Sénégal.
La commission de discipline de la CAF maintient sa décision de faire rejouer le match Sierra Leone-Bénin en juin prochain après avoir examiné les différents recours et entendu les deux parties. Elle va plus loin pour dire que toutes les autres requêtes ou prières pour atténuer ou infléchir cette décision sont par la présente rejetées. Pour rappel, les Béninois, tous testés négatifs au coronavirus juste avant le départ pour la Sierra Leone le 28 mars dernier, se sont vus remettre une feuille blanche notifiant que 5 de leurs joueurs sont positifs au virus une fois devant le stade de Freetown et à 1 heure du coup d'envoi du match, ce qui a suscité colère et indignation dans le rang des écureuils qui ont refusé de jouer le match. Une fois de retour dans le club, les 5 joueurs présumés positifs à Freetown ont tous été testés négatifs et d'autres ont même joué en championnat. Lawal, c'est quand même curieux qu'au vu de tout ceci, la CAF a décidé de faire jouer ce match.
Oui, Élysée, curieux, je ne vais pas dire, mais c'est triste pour une instance aussi importante que la CAF, une instance pour laquelle on a du respect, qu'elle se comporte de cette façon aussi arbitraire, qu'elle cautionne, qu'elle encourage la tricherie jusqu'à ce niveau-là. C'est triste simplement pour la CAF parce qu'on ne peut pas concevoir que les tests Corona qui sont faits à Cotonou, puis à Paris, en France, de façon globale, puissent être négatifs et que ce soit les tests faits à Freetown qui soient positifs. Même si en Afrique on peut traficoter les tests, on ne peut pas dire que les tests faits dans les clubs de ces joueurs-là sont trafiqués. Non. Maintenant, si on ne sanctionne pas la Sierra Leone pour ça et qu'on estime qu'il faut rejouer le match, ils n'ont qu'à rejouer le match. Les Béninois ont intérêt à se pouvoir en cassation devant le TAS. Ils vont certainement le faire. Mais je dis, c'est triste, tellement triste pour l'Afrique que les choses se passent comme ça parce que on se rappelle ici que la Gambie a fait presque pareil en laissant dormir les Gabonais à l'aéroport et que la fédération, la CAF n'ait rien dit jusque-là et qu'on entende des choses aussi bizarroïdes que ce que la Sierra Leone a fait et que la CAF ne dise rien, c'est triste pour cette compétition. C'est une façon donc de dérouler le tapis rouge pour la tricherie et pour les comportements anti antisportif. Et si Mosepe, qui soit dit en passant, veut faire un tour à Freetown pour voir un stade,
il sera
Infantino, un stade qui véritablement n'est pas aux normes, un stade suspendu et puis après rétabli pour des raisons qu'on ne connaît pas, il y a un problème qui se pose en Afrique et il est important que les uns et les autres puissent prendre leurs responsabilités afin d'éviter et qu'on continue de ridiculiser le football africain de cette façon-là.
La déclaration de recours doit être envoyée directement au TAS dans les 10 jours suivant la réception de la notification de cette décision.
Oui, Élisée, c'est tout à fait normal que les Béninois puissent le faire. Mais je dis une chose, si les Béninois étaient fautifs de quelque chose, qu'on les sanctionne. Et si les Sierra étaient fautifs de quelqu'un, on ne peut pas concevoir que dans le protocole du Covid, il y a des délais qu'on doit respecter. On n'a pas présenté les tests là positifs pendant la réunion technique d'avant-match. Et c'est à une heure, pendant que les joueurs étaient déjà dans le bus qu'ils allaient au stade, ils étaient aux abords du stade, devant le portail du stade. C'est là qu'on présente une feuille, pour dire qu'ils sont positif. Non, c'est simplement ahurissant. C'est une aberration que d'entendre dire, et ça révolte à la limite quand d'entendre dire ces choses-là, et que les responsables de cette commission-là de discipline de la CAF ne puissent pas voir tout ça. Et on ne peut pas continuer par couillonner les gens jusqu'à ce niveau-là, Élisée. Et c'est triste pour le football africain.
Sacré Lawala. Amine, cette décision de la CAF fait suite à l'appel de la Sierra Leone qui réclame match gagné après le refus des Béninois de jouer le match. Finalement, la plainte du Bénin par rapport au test de Corona tronqué ne servira plus à rien.
Finalement, on en restera à la décision salomonique de la CAF de faire rejouer cette confrontation. Et on n'ira pas au bout des choses. On rappelle que la requête des Béninois a été rejetée. Et on verra dans quelle mesure la CAF fera preuve de sagesse et de sagacité pour au moins tirer les conclusions les plus importantes de cette affaire entre la Sierra Leone et le Bénin. Rendez-vous est pris donc sur le terrain, sur le rectangle vert, pour départager les deux sélections et surtout faire oublier une affaire qui fera de l'ombre et qui nuira encore une fois à la réputation du football africain.
Valdo, tout porte à croire que la CAF cautionne la tricherie vu sa position dans ce dossier.
Élisée, la reprogrammation de cette ultime rencontre des éliminatoires de la CAN nous laisse perplexes quant à la décision prise par la CAF de faire rejouer ces matchs. Je suis tenté d'emprunter vos mots, c'est-à-dire que la CAF est en train de cautionner la tricherie au profit du Bénin, sachant que perdre avec 2 buts d'écart face à la Sierra Leone est une équation difficile, alors qu'annuler ces matchs qualifierait la Sierra Leone. La CAF s'évertue à faire rejouer ces matchs à son aise, puisque c'est lui le seul maître à bord. Mais attention, cette décision est prise au vu aussi de tout le monde, hein, tous les observateurs avertis, qui, sans nul doute, constatent que l'on n'est pas sorti de l'auberge, et ce, malgré les changements opérés au sein de la CAF. Cette décision de la CAF risque d'être une tache d'huile sur ces nouveaux comités, alors que celui-ci était appelé à mieux faire, contrairement à certaines imperfections qu'avait fait montre le comité Ahmad Ahmad.
Amédine, le Bénin n'a d'autre choix que de faire appel devant le tribunal arbitral du sport, avec en jeu une qualification pour la CAN 2022 au Cameroun.
Oui, Élisée, comme la commission de discipline de la Confédération africaine de football a décidé de maintenir la décision de faire rejouer le match Sierra Leone-Bénin, je pense que les responsables du football béninois n'ont plus d'autre choix que de saisir le tribunal arbitral du sport, car ce qui s'est passé en Sierra Leone est inacceptable. C'est clair, net et limpide. Les Sierra Leoneins ont triché avec cette histoire de test de COVID-19 et la Confédération africaine de football n'a pas le droit d'encourager ce genre de comportement, car c'est contraire à l'éthique. Maintenant, je pense que les responsables du football béninois doivent se battre pour avoir gain de cause, car il faut se battre contre ces genres de comportements. C'est inadmissible et c'est inacceptable, Élisée.
Triste nouvelle dans cette émission. Francis Ducreux, régisseur du Tour du Faso, est décédé à Ouagadougou. L'annonce a été faite par la Fédération Burkinabé de cyclisme sur sa page officielle. âgé de 76 ans. Francis Ducreux a été un coureur cycliste français. Il s'est ensuite reconverti dans l'organisation de compétitions cyclistes en Afrique. Son portrait avec Kader Traoré, notre correspondant à Ouagadougou.
Né le 14 février 1945 à Pont-Audemer en France, cet ancien coureur professionnel de 1968 à 73 dépose ses valises au Burkina dans les années 80 pour se reconvertir dans l'organisation des compétitions cyclistes. En 1987, sous l'instigation du président Thomas Sankara, il donne le top de départ du Tour du Faso. Il s'attaque à la boucle du coton, puis au Grand Prix de l'Impossible. Et ce n'est pas tout. Il exporte son expertise sous d'autres cieux comme au Togo, à Madagascar, au Bénin, au Ghana, au Mali, en Guinée, en Mauritanie, au Niger.
Francis Ducreux a été un très grand promoteur du cyclisme africain et particulièrement du cyclisme burkinabé.
Alassane Ouangraoua, ancien président de la Fédération burkinabé de cyclistes et ancien collaborateur de Francis Ducreux sur le Tour du Faso pendant plus de 8 ans.
C'est vrai, il y a très longtemps, depuis les années 82, que je l'ai connu, que j'ai commencé à l'approcher, que nous avons composé ensemble.
Le Balkui Naba, tuteur de Francis Ducreux à Ouagadougou pendant plus de 10 ans, nous parle de l'homme. Selon lui, c'est Francis Ducreux qui a apporté une révolution financière dans le cyclisme burkinabé.
L'apport de Francis est immense, puisque avant qu'il n'arrive, on ne connaissait pas le système de sponsoring. C'est Francis qui nous a appris qu'on peut aller voir une société négocier une participation pour une course ou pour le Tour du Faso. Donc, à travers les sponsors, on a développé le cyclisme.
À 76 ans, ce franco-burkinabé laisse des coureurs orphelins de leur papa. Mathias Sorgo est le vainqueur du Tour du Faso 2018.
Chez les cyclistes, on l'appelait Francis, de par sa disponibilité, de par sa gentillesse avec les cyclistes. On dit que nous avons perdu un grand homme.
Francis Ducreux, c'est une immense somme d'expérience dans l'organisation des compétitions cyclistes qui aura vécu pleinement sa passion, le vélo. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Alors, Amine, triste nouvelle pour le cycliste africain.
C'est un moment triste pour le cyclisme africain, en particulier pour le Tour du Faso. C'est une des chevilles ouvrières de cette belle organisation qui a permis de faire découvrir aux téléspectateurs africains le pays des hommes intègres sous un autre angle. Bien évidemment, on verra qui c'est qui prendra la relève et qui assurera la pérennité de toutes ces épreuves à laquelle il a collaboré. Et on verra dans quelle mesure ces personnes pourront assurer et pérenniser son héritage.
Valdo, son organisation va manquer aux différents tours qu'il a créés.
Élisée, il n'y a pas que ce tour que vous avez cité. Hein. Francis Ducreux a également été associé à la mise en place du Tour cycliste international de la RDC. Tour qui a déjà cette édition, qui a connu un coup d'arrêt à cause notamment de la pandémie. Son expertise dans l'organisation de ces tours était quasi indispensable puisque l'homme avait non seulement la maîtrise technique, et aussi et surtout le management qu'il faut pour sa réussite. Et donc, sa mort est une grosse perte pour le vélo africain qui doit désormais chercher des voies et moyens pour s'en sortir sans lui. Francis Ducreux, c'est un nom qui reste collé au cyclisme africain et particulièrement de la RDC. Paix à son âme.
Un décès qui survient à quelques jours du Tour du Bénin qui aura lieu du 17 au 22 mai et dont il est l'organisateur. Choqué, le président de la Fédération béninoise de cyclisme, Rumiad Razoumé, lui a rendu hommage.
On est tellement choqué par cette mort parce que Francis Ducreux a été celui qui a créé le Tour du Bénin, le Tour du Faso, le Tour du Mali, le Tour du Togo, le Tour du Madagascar. Il est celui qui a initié un départ du cyclisme africain que nous voyons aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Nous sommes très attristé par sa mort et je profite de cette occasion pour présenter les condoléances à toute la famille du cyclisme, à sa famille biologique aussi. Et je pense que sur le Tour du Bénin qui aura lieu du 17 au 22 mai, nous lui rendrons hommage.
Lawal, il a donné goût à ce sport qui n'était pas vraiment connu en Afrique.
Oui, malheureusement, on rend hommage à l'homme, au disparu pour avoir traîné sa bosse à travers l'Afrique par cette discipline. Malheureusement, d'abord, le premier coup d'arrêt, c'est vrai, le tour cycliste du Bénin qui va donc souffrir de
son organisateur,
et les autres tours également. Mais Francis Ducreux a fait ce qu'il a pu et puis face à la mort, qu'est-ce que l'homme peut ? Rien de grand. Il vaut mieux pour les cyclistes se remettre en place. Il doit forcément laisser des gens autour de lui. Ils n'ont qu'à prendre le flambeau et continuer l'aventure en hommage à Francis Ducreux pour que le cyclisme en Afrique puisse continuer de vivre.
La paix à son âme. Merci Laval.
Olivier, c'est moi.
Ainsi s'achève Sporama. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro. Au revoir.